nouvelle opération PlaceNet XXL a été lancée en banlieue parisienne. Gérald Darmanin a publié une photo prise à Nanterre à 5h ce matin. On le voit aux côtés des forces de l'ordre. Et puis, un premier bilan a été annoncé hier soir. Près de 500 personnes ont été interpellées au total en une semaine. Et dans le même temps, il y a eu des coups de feu cette nuit dans le quartier des Moulins à Nice. Une rixe a éclaté, un individu a été blessé à la tête à coups de batte de baseball. Et à leur arrivée, les policiers ont été accueillis par des tirs de mortier d'artifice. Selon le policier Bruno Bartosetti, ce quartier est connu pour être gangréné par le trafic de drogue.
On a été pris à partie hier sur cette intervention avec des tirs de mortier. On a riposté avec gaz lacrymogène et LBD, mais fort heureusement, on n'a pas déploré de blessés dans nos rangs. Le quartier des Moulins à Nice est, je pense, le quartier le plus dangereux des Alpes-Maritimes. Hein, c'est l'endroit le plus sensible où il y a régulièrement des affrontements entre bandes rivales, régulièrement des tirs ou des tentatives de règlement de compte.
Avec la menace d'attentats qui monte en France, tous les regards sont rivés sur les Jeux Olympiques. Le jour de la cérémonie d'ouverture, Gabriel Attal veut mobiliser 30 000 policiers et gendarmes sur le terrain et 15 000 militaires. Mais est-ce que cela va suffire? On a posé la question au criminologue Alain Bauer ce matin dans la matinale de CNews. Écoutez sa réponse.
Le risque est immense dans un espace non terminé. Vous savez, la sécurité, c'est périphérie, périmétrie, compartimentale. Aucun de ces trois dispositifs ne fonctionne sur un espace ouvert comme la Seine. Le président de la République, après avoir expliqué qu'avec un seul plan, le plan, enfin pas lui, on lui faisait parler, un plan a expliqué qu'il pouvait y avoir des plans B, C, D. Je pense qu'on arrive peu à peu au plan Z et ça sera probablement le meilleur.
Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
Il est toujours très bon. Merci beaucoup Chana, merci beaucoup. Nous sommes avec ce matin Charlotte Dornella, Joseph Massescaron, Georges Fenech, Philippe Guibert, Gauthier Lebret et Lomic Guillot, parce qu'on va évidemment parler un peu de cette déficit public. Les Mozarts de la finance ont écrit le Requiem, je le disais la semaine dernière. On va écouter, le chiffre est au-dessus, c'est ça?
Au-dessus de...
Oui, parce qu'il y a moins de recettes.
Exactement.
Il y a moins de recettes parce que, mais alors pourquoi il y a moins de recettes? Parce que l'inflation a un peu baissé, il y avait plus de recettes de TVA, c'est pour ça?
Oui, la consommation des ménages a un peu reculé et l'impôt des sociétés surtout, les sociétés sont mal en point, elles ont moins fait de bénéfices et versé moins d'impôts. Donc
mais
moins
il explique qu'il n'y a pas eu, de plus de dépenses publiques.
Il y en a toujours eu plus, avec le quoi qu'il en coûte, les boucliers énergétiques, on n'a pas en tout cas fait d'économie.
La ligne de l'exécutif, c'est de dire que c'est le contexte international.
Oui,
c'est le contexte géopolitique avec l'Ukraine, c'est la croissance chinoise qui n'a pas été au rendez-vous, et donc on n'a pas pu faire rentrer suffisamment d'argent pour éviter ce déséquilibre.
Moi, je vais prendre un exemple, l'aide médicale d'État. Un exemple. Vous allez expliquer à des gens qui n'ont jamais cotisé de leur vie, qui ont des soins gratuits en France, vous allez expliquer à des gens qui cotisent et qui, eux, payent les soins en France. Vous avez expliqué ça. C'est, en fait, ce pays marche sur la tête, donc dans tellement de domaines que c'en est invraisemblable. Alors, écoutons Monsieur Le Maire ce matin, qui, entre deux ou trois phrases sur son livre, a quand même parlé du déficit public, parce que c'est important.
Il en promo.
C'est important.
Les finances publiques de l'État doivent être établies. Là, je ne vais pas vous dire le contraire, je vais essayer de vous expliquer comment. Mais croyez-moi, ma détermination à rétablir les finances publiques et à repasser, François Langlais citait le chiffre, sous les 3% de déficit public en 2027, elle est intacte, je dirais même qu'elle est totale. Je maintiens l'objectif de repasser sous les 3% de déficit public en 2027. Ça va demander des efforts supplémentaires, parce que c'est le même objectif qu'avant, mais avec une situation qui est plus dégradée. Ça demandera plus de détermination, beaucoup de méthode et beaucoup de sang-froid.
Le problème, c'est que plus personne ne croit personne, ben parce non. que c'est...
L'objectif était de 4,9, on est à 5,5, et effectivement, c'est 3, normalement, la règle européenne.
Oui, alors, honnêtement, ce chiffre de 3, je ne sais même pas de quoi il sort, de quand
c'est
il
un
sort,
compromis
pourquoi...
européen.
Ça veut rien dire. Il y a un type qu'un jour qui a dit qu'il faut faire 3. On ne sait pas, ça aurait pu être 2, ça aurait pu être 4.
Non, en revanche...
Alors, non,
en tout cas,
c'est
plus que 5,5.
Franchement, le 3... Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi 3 et pas 3,5...
Oui, peut-être, mais vous oubliez quelque chose, c'est qu'il y a les agences de notation. Et eux, ils regardent le chiffre qui vient d'avancer.
C'est important pour les intérêts.
C'est là l'enjeu, justement, précisément.
Oui,
bah oui.
Non, mais parce que vous vous rendez compte que la première source de dépenses en France, ça va être le paiement des intérêts. Avant de payer vos routes, avant de payer vos hôpitaux, avant de payer vos écoles, avant de payer vos retraités, ça sera les intérêts.
Bon, la croissance est bonne, il est quand même content, monsieur le maire, donc bon, on va l'écouter. Non, mais il est content, la croissance est bonne, il l'avait dit. J'avais dit. Écoutons, monsieur le maire.
Nous avons fait la croissance attendue. Tout le monde me disait ça va être la récession en 23. J'avais dit qu'on ferait 1% de croissance. Nous avons fait pas loin de 1% de croissance.
0,9.
Mais malgré cette bonne croissance, qui nous distingue des autres pays de la zone euro, nous avons eu des recettes fiscales bien moins élevées que prévues.
C'est un problème d'anticipation,
Bruno Le Maire. Il n'y a pas eu plus de dépenses publiques que ce que nous avions dit. Il y a eu moins de recettes que prévues. Et effectivement, ce que nous avions peut-être sous-estimé, c'est que le fait que l'inflation baisse plus vite que ce à quoi nous étions attendus, ça fait moins de recettes de TVA, ça fait moins de masse salariale, donc moins de recettes aussi sur la masse salariale, moins d'impôts sur le revenu, moins d'impôts sur les sociétés. La perte de recettes fiscales, au total, elle est de 21 milliards d'euros.
Je vais envoyer à tous ceux qui nous gouvernent ce petit texte. Comment agir en bon père de famille ? Le bon père de famille se veut prudent, diligent, attentif, soucieux des biens et ou des intérêts qui lui sont confiés. Or, lorsque le comportement d'une personne s'est écarté de cette norme, il y a faute, qui peut être simple ou lourde, selon la gravité du comportement ou le degré de déviation par rapport à la norme. Le bon père de famille. Je vous assure, ces gens seraient dans le privé, mais...
Emmanuel Macron a dépensé de l'argent qu'il n'avait pas en réalité. Il s'est comporté presque comme un joueur de casino. Il a anticipé et espéré des recettes à venir qui ne sont pas venues.
C'est la pyramide de comment on dit la pyramide de Ponzi. En fait, la France, c'est la pyramide de Ponzi.
C'est de la cavalerie, en fait.
C'est la pyramide de Ponzi.
C'est de Grèce, c'est plus la pyramide de Ponzi.
Comment ?
Non, mais c'est pas grave. C'est un jeu de mots parce que je pensais à la série. Non, rendez-nous Pierre Bérégovoy. On va être d'accord, quand même.
Ah oui,
excusez-nous. Non, mais pardon. Bah oui.
Raymond Barre.
René Monory. Un grand. Un très grand.
Oui. Voilà. Non, mais si on est honnête.
Oui. On l'est pas du tout ici. C'est pour ça qu'on est malhonnête.
Si on est honnête, le problème de croissance de la France, il est moins pire que dans d'autres pays.
C'est formidable. C'est moins pire qu'ailleurs. On est
vous
vraiment
avez
bien.
Beau.
Enfin, pas qu'en Allemagne.
Vous avez beau le contester. Il y a eu un phénomène économique européen.
Sûr. Sauf qu'on l'a surévalué, cette croissance. Oui. On a espéré beaucoup plus et on a construit un budget
et
avec
c'est
une
pas
croissance
le problème,
qui n'était pas réaliste.
Le problème numéro un de la France, c'est même pas ça. Le problème numéro un, c'est la réforme de l'État. Bon sang de bois.
Oui, mais là,
le Conseil régional ne sert à rien. Tous les jours, je le dis.
D'un point de vue politique.
C'est mon nouveau truc. D'un point de vue Conseil régional ne sert à rien.
Ça change du SIG.
Comment ?
Puis ça fait plus d'argent.
Le SIG. Ah, bah, vous avez du SIG. 120 personnes.
Non, c'est malin. C'est pareil, quand je suis parti, il y en avait 60 ou 65.
Très intéressant. Il y en a 120 aujourd'hui.
Comment ils ont fait ? Je sais pas.
Bah, ils ont multiplié par deux.
Ils ont embauché.
Je ne donnerai pas mes sources par charité chrétienne, en plus c'est la semaine, mais quelqu'un vraiment à un certain haut niveau de cet État m'a dit la semaine dernière, ça ne sert à rien. À rien.
Ils savent pas s'en servir. Qu'est-ce que...
Ah bon, ils savent pas s'en servir.
Ils font des revues de presse le matin, voilà. Ils écoutent les matinales.
Mais 120 personnes.
Vous savez bien que le rôle du SIG, c'est principalement de faire des sondages. Voilà, c'est pour ça que personne n'en parle.
C'est vraiment intéressant de faire des sondages. T'as besoin de 120 personnes pour faire des sondages.
Mais il y a jamais 120 personnes. Enfin, moi, je comprends pas comment.
Mais il y en a 120 aujourd'hui. Vous avez,
voilà. Moi, j'ai eu parti.
On va pas parler du SIG.
D'abord, ils ont réussi à doubler.
D'un point de vue politique, c'est très intéressant de voir qui fait le 20h de TF1 demain. C'est pas Bruno Le Maire. Bruno Le Maire l'avait fait il y a quelques semaines pour annoncer une première salve d'économie, les fameux 10 milliards. Non, demain, c'est Gabriel Attal. Donc, quelque part, c'est aussi un désaveu pour Bruno Le Maire. C'est le Premier ministre qui monte au créneau pour essayer de trouver une...
Il sera peut-être à la grande librairie, on ne sait pas.
Oui, peut-être en dédicace à ce moment-là. Vous
les fameux 3%, ce sont les Français du temps de François Mitterrand qui l'ont imposé à Bruxelles.
C'est dans le
Catherine
dans le
que je salue.
Je crois
bon, les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État.
Sauf erreur de ma part.
Comment ?
C'est dans le cadre de Maastricht, les 3%.
Oui, bon...
Et effectivement, ils ont sauté aussitôt qu'on avait un problème, ils ont sauté.
Bien 4 heures.
Bruno Le Maire, les dépenses de l'État. Écoutons, troisième passage.
Mais alors, je pense vous avoir apporté la preuve en vous parlant des dépenses de l'État, en vous parlant des dépenses de santé très concrètes, en vous parlant des opérateurs, qu'on peut parfaitement faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français. Et je reste, c'est ma conviction et c'est ma position. Totalement opposé à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes, qui payent déjà un montant d'impôts qui est extrêmement élevé.
Là, nous sommes d'accord. Mais Mme Braun-Pivet, visiblement, pense pas la même chose. Mme Braun-Pivet, j'ai l'impression, elle prépare une candidature ou pas ?
Alors, elle veut une taxe sur les super profits et elle veut augmenter les impôts. Mais c'est pas un tabou.
Elle prépare une candidature ?
Oui. Non,
Vous avez eu.
Ils sont nombreux.
Son nom circule. C'est pour ça qu'elle prépare une candidature à la présidence.
Et vous savez quel est le ballon d'essai qui va sortir ?
Allez-y.
François Bayrou.
Non mais arrêtez.
Ah, je jure. C'est le candidat du président.
Comment vous prononcez
Arrêtez d'ailleurs de prononcer comme ça, parce qu'à Pau, ça Bayrou. Crée des émules.
Comment Bayrou.
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 Bayrou. Bayrou. Bayrou. Bayrou. Bayrou. C'est pas un bal de
dessert. Si, parce que le président pense, le président pense ou penserait que tous ceux qui ont travaillé au gouvernement, ils auront du mal, puisqu'ils auront, entre guillemets, collaboré à Emmanuel Macron dans 3 ans. Donc on lance François Bayrou.
Arrêtez Bayrou.
C'est là, c'est le nouveau candidat
d'élu. Si je peux nuancer celui ou celle qui vous a dit ça.
Oui.
François Bayrou, il y a quelques semaines, il a failli créer un incident politique le plus important depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.
Il s'organise. Il se tait.
Oui, il s'organise. Oui.
Il se tait et il s'organise. Les réseaux. Il les met en place.
Oui,
non,
oui.
Non, mais vraiment, c'est alors mais
ça peut-être, peut-être pour calmer. Oui, c'est peut-être.
Non, mais dans 3 ans,
il a fait un clash.
Dans 3 ans,
mais François Bayrou, Jean Castex aussi, puis Elisabeth Borne.
3 ans, c'est long.
Oui, mais tous ces gens-là ont collaboré entre guillemets.
Non, mais c'était de l'ironie.
Oui, mais c'est la nouvelle.
Non, mais c'est le nouveau. Emmanuel Macron ne veut pas de successeur. Il veut pas de successeur. S'il veut se représenter après.
Alors là, c'est la théorie. Voilà. C'est après moi le déluge, c'est Marine Le Pen et moi je me représente. Je pense. Bon, d'après.
Madame Braun-Pivet. Madame Braun-Pivet, écoutons-la parce qu'elle, elle est. Il y a pas de tabou.
Elle a sa liberté de parole, comme on dit dans la majorité.
Ben, écoutez, elle a sa liberté.
Bruno Le Maire a dit qu'il manquait pour cette année 10 milliards, mais qu'il allait falloir en trouver 25, voire 40 dans les années qui viennent. Tout en disant qu'on n'augmenterait pas les impôts. Mais pour vous, c'est pas un tabou, la hausse d'impôts?
Il ne doit pas y avoir de tabou, aucun, parce que, vous savez, en 2017, lorsque on s'est lancé en politique et qu'on a suivi l'aventure d'Emmanuel Macron, c'était justement parce que nous refusions les dogmes, parce que nous étions en capacité de regarder les situations telles qu'elles étaient et de trouver des réponses appropriées. Donc, évidemment, nous avons une politique qui a été celle de la relance de la croissance, création d'emplois, permettre aux entreprises de se réarmer, de se réimplanter, mais nous avons subi un certain nombre de crises qui ont affecté profondément les finances publiques.
Bah, vous vous rendez compte, la capacité d'enfiler des perles et de dire des phrases creuses. Les dogmes, refusons les dogmes, nous étions en capacité, réarmer l'entreprise.
Mais
toute, en fait, moi, je n'en peux plus de ces phrases-là. Oui, parce que c'est tellement creux.
Il n'y a pas de tabou. Alors il y a pas de tabou,
c'est tellement creux, c'est-à-dire ces phrases qui sont des phrases, voilà, des phrases valises.
Bien sûr.
Donc c'est n'importe quoi.
Mais derrière il y a un message politique.
Oui,
d'ailleurs, il y a un message politique, en effet. C'est-à-dire que elle dit, il y a suffisamment de candidats à la Macronie qui se trouvent à la droite de la Macronie. Je veux occuper l'aile gauche de la Macronie en vue de la présidentielle. Oui, pardonnez-moi. Oui. Bah oui, oui, c'est ça la lecture. Et qu'importe l'élection, et qu'importe l'élection européenne. Bon,
Dupont-Aignan pour terminer, qui était assez virulent ce matin sur les Mozart de la finance.
Si on regarde le bilan depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est plus de 800 milliards de dettes et on va arriver à 1000 milliards. Vous vous rendez compte, les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance.
Les tocards, dites-vous?
Mais la France est en faillite.
Oui.
La France est en faillite. Et ce qui me révolte le plus... Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai écrit un livre avant la présidentielle, Où va le pognon ? Un livre concret où je recensais des économies. Parce que c'est facile de critiquer un déficit si on ne propose rien.
On va en parler.
J'ai proposé des économies. Ce qui me révolte le plus, c'est que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire savaient depuis plus de six mois, que les finances dérapaient. Ils le savaient.
Là, en plus, il met le doigt sur quelque chose qui est juste. En plus, les chiffres ont été cachés, vous êtes d'accord?
Oui, les sénateurs sont allés les voir la semaine dernière à Bercy. Effectivement, on le disait tout à l'heure, les prévisions de croissance ont été surestimées et sans doute que la réalité était connue. Oui.
Bon, écoutez, c'est la vie. Je ne sais pas qui paiera, vous, moi, mais...
plus de moi que vous. Bon. Hein.
Comment?
Non, mais le problème, c'est que personne ne veut.
Mais si, on veut.
Tout le monde, c'est de bonne guerre,
critiquer
Macron, c'est de bonne guerre.
Mais c'est pas Macron, là, en l'espèce, c'est pas Macron, c'est le système qu'on... En fait,
oui, mais...
je répète tous les matins la même chose, le privé marche plutôt bien, l'État, c'est juste une catastrophe. Voilà. Les chefs d'entreprise, les entreprises, la bourse française, tout ça,
ça marche. Pareil,
Comment ?
Ça marche pas pareil.
Eh ben, faudrait que ça marche pareil.
Bah non,
justement.
Ça marche pas pareil.
Eh ben, si, on va. On va faire que ça marche pareil, figurez-vous.
Ben non, ça peut
parce
pas marcher.
Parce que, sous Giscard,
il y a une différence.
Bon père de famille. Ça peut pas marcher. Ça, bon père de famille. Raymond Barre, ça peut pas marcher.
Le conseil régional qui sert à rien, ça peut pas marcher. Le SIG qui sert à rien, ça peut pas marcher. L'AME qui sert à rien, ça peut pas marcher.
Ah non, on
peut pas
enlever. Ça sert à quelque chose.
Ah, d'accord.
Ça parce qu'il est incompréhensible, c'est quand on entend Bruno Le Maire dire qu'il va faire 10 milliards d'économies sans prendre dans les poches des Français et que c'est des économies presque faciles à faire quand on l'entend. On veut dire, mais pourquoi il les a pas faites avant si c'est si facile?
Il y a 2 milliards, si paraît-il, au Sénat. Il y a 2 milliards. Boum, tu prends les 2 milliards du Sénat. À quoi ça sert? Pourquoi tu les prends pas?
Heureusement qu'ils n'ont pas voté maintenant.
Non, mais il n'y a pas de vrai sujet. Pourquoi répondez à ma question. Il y a 2 milliards.
C'est l'État social.
Il y a 2 milliards d'argent qui dorment au Sénat. Pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question?
Ça doit être les retraites des sénateurs, en plus.
Je rappelle juste qu'Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, promettait une baisse de 2 milliards d'impôts pour les foyers les plus modestes.
Bon, Gabriel Attal.
Le vrai sujet, c'est notre système social. On le répète à chaque fois.
Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, ami.
C'est quand même une partie du problème.
C'en est une, mais il n'y a pas que ça.
Il y a également d'autant moins que ça que lorsque le système social est géré mutuellement par les patrons et par les syndicats,
ça marche mieux.
Et c'est justement ce système social-là qu'ils veulent détruire.
Agir Carco, ça marche.
Agir Carco, voilà. Et pourtant, ils veulent le détruire.
Exactement. Parce qu'ils veulent repérir.
Donc, c'est pas le système
social. Mais en fait, vous avez peut-être raison.
C'est pas le système social du tout.
Bien sûr.
Mais
Georges Fenech qui n'a pas parlé. Non, mais vous n'êtes. Philippe, je vous aime beaucoup, mais vous n'êtes pas crédible sur ces questions-là.
Pourquoi donc?
Mais parce que vous dépensez de l'argent depuis toujours, vous avez été dans l'État et vous êtes responsable de ce qui est arrivé.
Mais quelle est votre crédibilité?
Bonne journée.
Moi? Moi, je suis dans le privé. Georges.
Ben moi, j'ai écouté votre édito.
Ah ben, on va en parler, tiens, l'islamisme.
Vous étiez là, oui.
Et on en parle maintenant.
J'ai écouté votre édito. Vous avez repris ce qu'a dit Gabriel Attal. L'islamisme n'est pas une religion.
Oui, on en parle si vous voulez. On l'écoute
si vous voulez, je vous dirai ce que j'en pense.
Voilà. On écoute Gabriel Attal parce que cette phrase, elle est étrange. Et je trouve qu'elle est significative. Écoutons le Premier ministre de la France.
L'islamisme n'est pas une religion. Ce n'est même pas une simple idéologie. C'est une spirale, un engrenage de la haine qui se nourrit de notre naïveté et qui veut tuer la République. Le terrorisme peut frapper partout, peut s'en prendre à n'importe qui, et malheureusement nous avons des exemples dramatiques encore ces derniers mois dans notre pays d'attaques terroristes qui s'en sont pris à nos concitoyens.
Georges Fenech.
Moi je dirais que l'islamisme c'est un dévoiement d'une religion qui est l'islam. Voilà. On ne peut pas déconnecter l'islamisme de la religion. Et ce qui est vrai dans l'islam, vous le retrouvez dans toutes les religions. Toutes les religions du livre ont leur propre dévoiement. Je ne vais pas citer d'obédience, parce que je ne veux pas qu'on ait de procès, mais ça existe partout. Sauf que l'islamisme emploie des moyens de terreur, de violence. C'est toute la différence entre ce qui peut exister au sein de la religion islam et des autres religions du livre, voyez-vous. Donc, c'est, pour un mot, c'est une dérive sectaire, violente.
Quand même.
Joseph Massescaron.
Voilà.
Joseph Massescaron sur la phrase de Gabriel Attal.
L'islamisme est une religion. Et je vais vous dire exactement depuis quand. C'est une religion depuis le temps des Omeyyades. C'est une religion depuis le moment où a été tranché de savoir si le Coran était un livre créé ou incréé. Et le Coran a été considéré, évidemment, par les islamistes, par nature, comme étant un livre incréé. Quand vous regardez à partir des Omeyyades, vous avez
c'est
un
quoi,
nombre
les Omeyyades,
de... les Omeyyades, pardonnez-moi, les Omeyyades, c'est une grande dynastie, évidemment, musulmane, qui notamment régna à Damas pendant à peu près 2 siècles, et qui, c'est les très rigeurs de l'islam. C'est là où il y a Avicenne, les grands savants, etc., etc. Donc,
mais
vous avez...
tout le monde ne connaît pas forcément cette
dynastie. Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, dans le même mouvement, une science arabo-musulmane, qui emprunte évidemment aux chrétiens d'Orient, qui explose littéralement, et de l'autre côté, vous avez un obscurantisme terrible. Et ces deux mouvements, qui sont vraiment deux religions, car l'islamisme est une religion, vont cheminer côte à côte, et parfois, il va y avoir des éléments qui vont se pénétrer et s'interpénétrer. C'est pour ça que c'est aussi difficile.
C'est très intéressant.
Donc oui, l'islamisme est une religion.
C'est très intéressant de refaire
et ne pas reconnaître que l'islamisme est une religion pose un problème.
Et de l'histoire, mais revenons les pieds sur terre, aujourd'hui.
Mais c'est les pieds sur terre.
Non, là, vous nous faites
l'histoire
qui est très intéressant et qui est vrai.
Non, Georges, je vais te répondre pourquoi c'est les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est parce que Daesh en Khorasan. Pourquoi ils disent Khorasan? C'est pourquoi? Parce que c'est justement ainsi que dans les au temps des Omeyyades,
on
nommait toutes ces géographies. Mais oui, mais ça veut dire que si on ne connaît pas
l'actualité, si on ne connaît pas l'histoire, mais... si on ne connaît pas l'histoire des religions...
Non, mais si Joseph le rappelait, mais permettez...
On est totalement
George,
à côté.
Georges, au-delà de cette querelle sémantique, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça révèle. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que ça révèle. C'est comme si vous disiez, une voiture en excès de vitesse n'est pas
écoutez,
une voiture.
Écoutez, les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans. Voilà. Expliquez-moi pourquoi.
Mais parce que je vous l'ai dit.
Expliquez-moi pourquoi.
Je vous l'ai dit que
en nombre, hein, j'entends, en nombre.
Et pourquoi vous dites ça?
Je vous l'ai dit ça parce que on ne peut. Si on commence à dire que l'islamisme,
Charlotte Dornelas,
et l'islam, c'est la même chose, et ça, je l'ai entendu chez certains responsables politiques.
Précisément.
Là, on rentre dans un scénario du pire.
Oui.
Du pire pour la vie en communauté dans un pays.
Excusez-moi. Oui.
C'est l'amalgame. L'islamisme.
D'accord avec Georges.
Issu des frères musulmans, c'est un projet politique qui se détache du simple fait religieux pour imposer une vision du monde.
Comment sont perçus les musulmans d'un islamiste?
Mais comme des mécréants, comme des faux musulmans. C'est pour ça que je vous dis.
Oui.
Donc c'est une religion.
C'est une religion.
Votre réponse est terrible.
Mais oui.
Vous considérez que c'est
une religion.
Vous êtes en train de dire la même chose que Joseph
Pasquier. C'est une minorité.
Non, mais vous venez de dire exactement la même chose que...
Vous voulez en dire où? Franchement.
Charlotte,
quelle est votre démonstration?
Ma démonstration est qu'on considère l'islamisme à part entière comme une religion. Et justement, tous les gens qui veulent défendre l'islam devrait être sur cette ligne-là, précisément.
Charlotte. On laisse la responsabilité.
Précisément. Ce que vous dites. Mais pourquoi?
Parce que c'est dangereux de dire ça.
Ah, bah, ça veut rien. Mais ça veut rien dire.
C'est dangereux.
Mais pourquoi?
Parce que c'est de l'amalgame.
Mais il n'y a pas d'amalgame.
Mais si.
Mais justement, attendez, Georges.
Puisque l'un et l'autre se fondent sur le Coran.
Mais quel est-ce
donc vous avez une lecture quiétiste.
Charlotte.
Mais et vous avez une lecture violente.
Non, Georges, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Il y a une lecture où le Coran est considéré comme un livre créé et considéré comme un livre incréé. S'il est incréé, on ne peut pas le discuter.
Charlotte.
Voilà, c'est tout.
Non, mais je connais Georges par cœur. Georges est muet par la... Vous avez peur. Voilà.
J'ai pas peur.
Non,
j'ai pas peur du tout.
Non, mais je connais ça.
Non,
comme,
je ne rends pas compte.
Comme Gabriel Attal, vous êtes tous là-dessus, vous ne voulez pas dire les choses.
Mais je les ai dites très clairement, mais vous ne voulez pas m'entendre.
Mais
vous partagez pas ce point de vue.
Mais d'ailleurs, vous venez de dire, c'est dangereux de dire ça, ce qui ne veut rien dire.
C'est dangereux pour la cohésion nationale.
Mais c'est pas le sujet.
Vous ne pouvez pas jeter l'opprobre sur tout le monde musulman.
Personne ne dit ça. Ce qui m'intéresse toujours dans nos débats, c'est entre guillemets, la vérité. C'est ça, la démarche journalistique.
Non, mais qui dit ça?
Voilà, il y a que ça qui m'intéresse.
C'est que l'islamisme est une déviance de l'islam.
Ah, mais voilà. Bah non, depuis Maxime Brisson, on sait que...
Moi, je
suis désolé. Parce que
Charlotte, Charlotte, et après, on verra Thomas.
Après, je veux bien.
Et après, ça sera la pause. Charlotte.
Je suis pas exégète du Coran, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une bataille pour savoir qui a la bonne lecture. Donc il y a une bataille sur la même religion pour savoir qui la détient et qui détient la vérité de cette religion entre les musulmans et les islamistes. Et la raison pour laquelle les islamistes considèrent les musulmans comme des mécréants au même titre que les autres.
Absolument.
En revanche, ce qui est absolument absurde dans la phrase de Gabriel Attal, parce que faut voir derrière la discussion qu'on a, pourquoi Gabriel Attal dit ça? Parce qu'il faut toujours dire que c'est pas ce qu'on croit, en fait. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on a l'islamisme en face de nous, personne ne lui demandait de qualifier sur le terrain ni politique, ni idéologique, ni religieux, parce qu'à la fin, le vrai sujet, c'est qu'il tue tout ce qui ne leur ressemble pas, donc on peut peut-être se concentrer là-dessus, déjà, pour commencer. On n'attend pas du Premier ministre français qu'il qualifie exactement religieusement où situe l'islamisme ou pas, c'est pas son métier, déjà pour commencer. Et ensuite, si on croit, et c'est là où je dis, c'est simplement un réflexe sémantique de la part du Premier ministre, si on croit à la fin que l'islamisme a comme problème la République, alors on est complètement aux fraises.
Évidemment.
Il tue partout dans le monde, en monarchie, en République islamique.
Mais non, mais c'est un vrai... c'est invraisemblable.
Et simplement, quand ils doivent nous définir, nous Français, et les raisons pour lesquelles ils nous tuent, ils parlent de chrétiens, point barre.
Donc ça se fait bien sur un terrain religieux. Hier soir, j'ai fait la rupture du jeûne hier soir, tard, à l'invitation de Hassan Chaghoulmi, que vous connaissez, l'imam.
Oui.
Il y avait tous les représentants des religions qui étaient là.
Monsieur personne ne le reconnaît.
Il y avait Madame Von Pivet qui était là. C'était un grand moment de voir tous ces représentants religieux.
Ça, ces grands moments.
Mais laissez-moi parler, Pascal.
Mais personne n'est dupe de ce que vous dites.
Mais
est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes à côté?
Je crois que les
Monsieur Chaghoulmi, hélas, les musulmans ne reconnaissent pas sa parole. Hélas.
Ils étaient là.
Les islamistes.
Ils étaient là. Ils étaient là. Il y avait la religion juive, orthodoxe, catholique.
déconnecté. On est entre nous. On est entre nous.
Mais c'est
quand même incroyable de ne pas pouvoir dire cela.
Quand même aussi.
Il y avait tous les représentants de la République.
Je vais dire.
J'aimerais bien que Philippe fasse une synthèse, parce que là, je me sens un peu seul.
Mais parce que je connais vos. Hélas,
elles ont des bonnes. Non, parce que c'est la pause.
Alors après.
Oui, bah oui.
C'est pavé de bonnes intentions, toutes vos interventions. Je vous assure, c'est pavé de bonnes intentions. Je sais que ces paroles-là nous emmènent dans le mur.
Voilà. Et pourquoi?
Je ne partage pas du tout votre avis. Mais parce que ce que vous parlez de gens qui ne représentent personne.
Il faut combattre l'islamisme politique. Voilà.
Mais l'islamisme n'est pas...
La doctrine des frères musulmans,
c'est
déviant.
Georges, l'islam est politique.
Non.
C'est inhérent.
Non. Non.
Est-ce qu'on peut admettre qu'il y a eu...
L'islam n'est pas, c'est pas inhérent.
Pas en France. L'islam doit rester une religion du domaine privé.
Mais voilà. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? L'islam n'est pas, c'est inhérent à la politique.
Je pense qu'il y a vraiment.
Thomas Hill, là il n'y a plus de discussion.
Puisque c'est précisément un code politique.
Est-ce qu'on peut admettre qu'il y a eu plusieurs pratiques de l'islam?
S'il vous plaît, Philippe. Pardonnez-moi, mais je dois faire la discipline. Ils ne comprennent pas que vous avez... C'est dur parfois le matin.
Ah, je vois ça.
Allez, on est en retard. On vous souhaite la bonne émission.
Bonne émission, Pascal.